Si l'intuition de départ de la création de Philanthropos revient d'une certaine manière à Jean-Paul II, qui le premier a osé parler d'anthropologie au sens d'une vision intégrale de la personne humaine. C'est le père Nicolas Butet, modérateur de la fraternité Eucharistein, qui, peut-on dire, a reçu dans son cœur d'homme et de prêtre cette intuition comme une urgence de notre temps. Et c'est ce qui explique les liens, sans confusion pour autant, qui existent entre l'Institut Philanthropos et la fraternité Eucharistein. Nous écoutons le père Nicolas Butet nous retracer la genèse de notre projet, tout remis dès ses débuts dans les mains de la Divine Providence.
Les titres ayant déjà été prononcés, je dirais à tous ces très chers amis, c'est une grande joie de se retrouver aujourd'hui ici pour célébrer une œuvre qui est une œuvre commune, véritablement, où tant de bonnes volontés y ont participé, y compris dans la Genèse. Notre directeur, Yves Semaine, vient de vous dire que l'intuition vient, bien sûr, de Jean-Paul II, qui a dit un jour « la grande crise aujourd'hui est anthropologique, il faut absolument faire quelque chose pour l'anthropologie ». Donc, il y avait cette intuition qui était en filigrane, mais aussi trois choses qui m'ont frappé, une expérience, un appel et une soif. Une expérience d'abord de la rencontre des personnes. Vous savez, Dieu est très mauvais en mathématiques, il compte que jusqu'à un, puisque chacun est un être unique, irremplaçable, infiniment aimé de lui, et que finalement derrière chaque personne, il y a ce visage unique, une histoire unique. Et c'est vrai que au cours de différentes expériences qu'il m'a été donné de vivre, j'ai pu découvrir ces souffrances de l'humanité, aussi bien chez des jeunes qui ont passé par la drogue, l'alcool, la violence, que chez des personnes dans des pays plus éloignés de notre terre, mais qui souffrent de la faim, de la soif et de tant d'autres catastrophes, que chez des personnes assumant des responsabilités dans la société et qui se posaient la question du sens de leurs responsabilités, de trouver une distance de sagesse par rapport au flot et à l'activité de chaque jour. Et c'est toutes ces questions qui sont revenues et qui ont brassé en moi, mais avec d'autres personnes, d'autres amis qui ont dès le départ aidé à cette réflexion pour dire, mais voilà, il faut absolument redonner aujourd'hui au cœur de notre monde une réflexion sur la personne humaine, replacer la personne humaine au cœur de tous les débats, et non seulement la réflexion sur la personne ou l'intelligence de la personne humaine telle que le Créateur l'a voulu, mais également de vivre cela à travers une vie communionnelle, à travers une vie liturgique, parce que l'homme passe l'homme. Et ce qui passe l'homme en l'homme, c'est ce Dieu qui donne sens à l'être humain. Voilà. Devant un monde où souvent il y a des défigurations de la personne humaine, il fallait appeler à une transfiguration. Dans l'attitude que l'on a parfois de se dévisager les uns les autres, il fallait envisager l'autre dans la splendeur et la beauté, qui est plus grande que celle qu'elle croit elle-même d'elle-même. Et finalement, il s'agissait aussi peut-être, dans l'histoire qui court, de savoir répondre aux interrogations qui demeurent au cœur de l'homme, de révéler l'horizon de la vie et l'au-delà des temps dans lesquels nous vivons. Simone Veil, la philosophe, disait un jour « Il faut dire des choses éternelles pour être sûr qu'elles soient quelque part d'actualité. » Il faut dire des choses éternelles pour qu'on soit sûr qu'elles soient d'actualité. Donc une expérience de rencontre, de joies et de peines de l'humanité, avec chaque fois ce cri du cœur de l'homme. Mais qui est cette personne dont il est question? Et derrière tous les grands débats de notre monde, politique, économique, sociaux, il y a chaque fois cette question de la personne humaine. Et si l'on ne répond pas à qui est la personne humaine, eh bien on ne comprendra rien. Est-ce qu'une personne est ce qu'elle fait, est ce qu'elle a, est ce qu'elle sait, est ce qu'elle rapporte, ou bien est ce qu'elle est? Est-ce que c'est l'être qui fait la dignité de la personne humaine, son faire, son savoir, son avoir? Deuxième chose, un appel. Je crois qu'il y a deux manières de voir le temps. Vous savez, le temps chronologique, le temps chronos et le temps kairos. Il y a des temps de visite du Seigneur dans l'histoire des hommes, des temps qui sont des tournants et qui nécessitent des réponses ponctuelles, des conjoncturelles, mais en même temps qui donnent sens à tout ce débat du temps. Et je crois que il est urgent aujourd'hui dans un monde interculturel, dans la mondialisation dans laquelle nous vivons, de retrouver un terreau commun d'humanité, d'humanisme, qui permet à les hommes de s'entendre les uns avec les autres. Pour éviter l'antagonisme des civilisations, il va falloir découvrir une synergie et un dialogue des cultures. Et ce dialogue des cultures, eh bien, doit se faire uniquement à partir de cette commune humanité qui nous réunit tous, quelles que soient les différences. On voit une montée des communautarismes aujourd'hui, d'une revendication identitaire de certains aspects de notre culture ou de notre personnalité. Eh bien, cela ne peut conduire qu'à des tensions les uns contre les autres, alors que nous sommes appelés à bâtir un monde des uns avec les autres. Et cette commune humanité que l'on va redécouvrir, qu'il faut gratter un petit peu, qu'il faut chercher en profondeur, eh bien, c'est cela, je crois, qu'il faut le faire. Et c'est pas nouveau l'appel, vous savez, à réfléchir sur l'anthropologie, puisque il y a 40 ans en arrière, le décret sur l'apostolat des laïcs du Concile Vatican II préconisait la création de centres de documentation et d'études en sciences humaines et notamment en anthropologie. C'était le 18 novembre 1965, donc ça a pris 40 ans pour se réaliser ici comme ça, mais voilà, c'était cet appel. Et puis une soif de liberté, je crois que vraiment, de beauté, de bonheur qui habite le cœur de l'homme. Il faut y répondre à cette soif. Il y a tant de tristesse, Jacques Maritain disait, il y a tant de liberté retenue captive, et la liberté a besoin d'être libérée. La vérité libérera la liberté dans ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Et le désir profond que l'on a à travers toute cette formation de philanthropisme, à travers tout le travail qui est effectué, c'est de permettre à chacune et chacun d'acquérir cette liberté intérieure, cette authentique liberté intérieure qui permet d'éviter les pièges des modes et des idéologies qui ont toujours conduit finalement à la réduction de la personne humaine à un de ses aspects, et donc à une destruction de la dignité de la personne humaine. Je crois que la liberté, le respect de la liberté de chacune et de chacun n'implique pas la sauvegarde de l'ignorance, mais exige la conquête d'une sagesse. Et cette conquête de la sagesse, eh bien, c'est ce que l'on a voulu faire ici, sagesse philosophique, sagesse théologique, sagesse mystique aussi, c'est-à-dire ce regard tourné vers ce qui en l'homme est plus grand que l'homme, ce Dieu qui nous appelle. Voilà, il y a une sorte d'alphabétisation de l'humanité, je crois, à vivre aujourd'hui, une alphabétisation spirituelle et morale sur cette science de l'agir humain, comment agir en fonction du bonheur pour lequel nous sommes faits, comment utiliser cette liberté en fonction de la finalité du cœur de l'homme. Et pour rentrer dans cette alphabétisation, il faut apprendre une grammaire. La grammaire de la vie, la grammaire du bonheur, la grammaire du sens des choses, ce n'est pas la grammaire qui fait la beauté d'un texte, vous savez bien, c'est l'ajustement des mots qui va faire la beauté d'un texte. Il faut parfois l'écrire avec des lettres de feu et de sang, avec des mots de joie et de larmes, mais c'est cette construction toute entière qui va faire un chef-d'œuvre. Et cette grammaire, il faut l'apprendre, sans laquelle il n'y aura pas de maîtrise de la langue et de la parole. On ne pourra pas écrire la page blanche de notre vie s'il n'y a pas une maîtrise de cette grammaire. Et je crois que c'est ça que Philanthropos veut apporter, un apprentissage de cette grammaire. On n'aura jamais fini de l'apprendre, vous le comprenez bien, mais il y a quelques éléments de base qu'il faut acquérir de façon à partir dans le bon sens. Et puis, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup touché, c'était Goethe qui disait « L'Europe est née en pèlerinage » et le christianisme est sa langue maternelle. L'Europe est née en pèlerinage, et le christianisme est sa langue maternelle. Nous avons un trésor extraordinaire dont nous avons raison d'être fiers, mais aucune raison d'en tirer orgueil, puisqu'on l'a reçu gratuitement. C'est la révélation de la plénitude de la personne humaine dans le visage du Christ. Vous vous souvenez peut-être, la semaine prochaine, nous entendrons cette parole solennelle déjà demain dans la liturgie, et vendredi, « Voici l'homme, crie Pilate, voici l'homme ». C'est une parole prophétique qui résonne dans les siècles et pour les siècles. Voici la personne humaine. Dans le visage du Christ souffrant, défiguré, bafoué, il y a la proclamation solennelle de la dignité inviolable de chaque être humain. Et désormais, qui touche à Dieu touche à l'homme, qui touche à l'homme touche à Dieu. C'est dans ce contact de Dieu et de l'homme, dans cette incarnation, dans cette personne de Jésus-Christ, que nous a révélé le vrai visage de Dieu qui s'abaisse, l'amour descend jusqu'en bas, empoignant l'humanité dans ses blessures, et qui nous a révélé la splendeur du visage de chaque être humain. Eh bien, c'est à cela que nous sommes appelés. Finalement, toute cette démarche anthropologique trouve son achèvement non pas dans une idéologie, non pas dans une doctrine, non pas dans un dogme, non pas dans une morale, mais dans la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un, l'un de nous, nous révèle le visage de Dieu et le visage de l'homme. Alors c'est là qu'il faut aboutir, et pour proclamer la beauté de chaque personne humaine, la splendeur de chaque être humain, quelle que soit son apparence, quel que soit son âge, quel que soit l'état de sa vie. J'allais dire, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Le monde est à ce point, à ce kairos, où il faut proclamer cela. Et je terminerai par une petite parabole qui résumera tout ce que j'essaie de vous dire avec des mots bien imparfaits. C'est un papa qui lit son journal et sa petite fille s'approche de lui et lui pose plein de questions. « Dis papa, pourquoi les oiseaux chantent au printemps ? Dis papa, pourquoi la neige elle tombe et puis elle disparaît ?» Puis le père, au bout d'un moment un peu exacerbé, déchire une page de journal sur laquelle se trouvait la carte du monde. Il la déchire en petits morceaux, il la pose par terre et dit à sa petite fille « Tu me refais le pulse. Plus de questions avant que tu aies fini le pulse. Et puis après, je jouerai avec toi si tu veux. » Et le père s'est dit « Une carte du monde en noir et blanc, c'est tout gris. Donc pendant 3/4 d'heure, j'ai la paix, je vais lire mes news tranquillement. Et puis après, je jouerai avec ma petite fille. » Et 10 minutes après, la petite fille vient. « Dis papa, comment ça se fait ?»« Attends, papa, non. Tu finis le pulse et après, on discute et on joue. » Et la fille dit « Mais j'ai fini, papa. » Et papa dit « Mais comment tu as fait ?» Et la fille dit « Mais papa, et à la carte du monde, il y avait la photo d'un monsieur. J'ai refait le monsieur et j'ai refait le monde. » Voyez-vous, hein, derrière la crise de la mondialisation, je crois qu'il y a, on est plus de 7 milliards aujourd'hui, un, chaque être unique, irremplaçable. Et je crois que, paradoxalement, la mondialisation exige et implique la responsabilisation de chacune et de chacun, de manière peut-être comme jamais il n'a été nécessaire dans l'histoire de l'humanité. Et c'est cela que veut Philanthropos, et avec votre aide et votre collaboration, avec toutes les personnes qui ont donné du temps, de leur sang, de leurs larmes et de leur joie pour ce projet. Merci.